Il est 12h30 sur France Culture. On vous retrouve, Ludovic, pieds tenus pour les informations. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est une nouvelle ère qui commence avec nous, lancée hier soir Virginia Raggi, nouvelle maire de Rome en Italie. Son mouvement populiste et anti-parti Cinque Stelle 5 étoiles remporte également la mairie de Turin, une ville historiquement de gauche, et ça c'est lourd de sens pour le parti démocrate du président du conseil italien Matteo Renzi. Les eurosceptiques divisés en Grande-Bretagne, notre journaliste Franck Madvon chronique pour nous cette campagne britannique a repris hier après une courte pause consécutive à l'assassinat de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox, ce qui rend la campagne un peu plus compliquée pour les partisans du Leave, pour ceux qui veulent d'une Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne. En France, y aura-t-il un référendum en Loire-Atlantique ce dimanche au sujet d'un nouvel aéroport nantais? Réponse tout à l'heure, 16h du Conseil d'État, où nous retrouverons notre spécialiste de ce dossier, Véronique Rebérotte. Et puis un véritable revirement, il y aura des primaires socialistes en décembre. Au-delà des socialistes et de François Hollande, cette élection pourrait inclure quelques candidatures de radicaux ou d'écologistes pro-gouvernement. On en parlera avec Frédéric Seyss du service politique de France Culture et notre invité, l'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel, mais aussi avec l'invité de la seconde partie de la Grande Table, Caroline Brouet, qui sera
Michel Wiewiórka, sociologue qui travaille depuis de nombreuses années sur la violence, et nous lui demanderons pourquoi tant de violence.
65 300 000 personnes. Ce chiffre publié ce matin par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés fait froid dans le dos. Plus de 65 millions de personnes donc sont des réfugiés ou des déplacés. C'est l'équivalent de la population de la France. C'est aussi un être humain sur 113. Essentiellement la Turquie qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. 2,5 millions d'exilés. Des Syriens en majorité, mais aussi des Irakiens. Et c'est ici un voisin qui assume le déplacement de cette population, le reflet finalement de ce qui se passe pour la majorité des réfugiés dans le monde, Marie-Pierre Véraud.
Et oui, puisque 86% des personnes déracinées trouvent refuge à proximité immédiate des zones de conflit ou encore dans des pays à faible revenu ou en développement. Les plus gros cortèges de réfugiés viennent de Syrie, vous le disiez, d'Afghanistan et de Somalie. Ce sont les trois pays qui ont été le plus fuis en 2015. Et c'est bien dans les pays voisins du leur que ces exilés se retrouvent en majorité. Les premiers pays au monde dans l'accueil de réfugiés outre la Turquie, ce sont le Pakistan, le Liban, l'Iran et l'Éthiopie. On cherche en vain un pays européen en tête de ce classement mondial. L'autre visage de cet exil à bien retenir, c'est que les deux tiers des personnes qui fuient la guerre, 40 de ces 65 millions de déracinés, se sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. On ne prend pas la route de l'exil sans raison et l'on cherche à s'éloigner le moins possible de son foyer. Le rapport du HCR permet aussi de rappeler le vrai visage de l'accueil. L'Afrique, notamment subsaharienne, est ainsi la première terre d'asile au monde, juste devant l'Europe. Elle accueille quelque 4,5 millions de réfugiés, 20% de plus que l'année dernière, venus essentiellement de Somalie, du Soudan, de RDC ou encore de Centrafrique. Ce qui inquiète le HCR, outre ce record de réfugiés et déplacés, outre les nouvelles situations d'urgence en Afghanistan, au Burundi et au Soudan du Sud, c'est la montée des menaces contre les réfugiés. Ces milliers de morts en Méditerranée en nombre terrifiant, commente l'ONU. Et puis sur Terre, ces frontières qui se dressent sur la route des personnes fuyant les conflits ou la persécution, cette rhétorique extrémiste, ces législations anti-asile dans plusieurs pays, les négociations que l'Union européenne a entamées avec des pays africains pour contenir les réfugiés sur le continent, à l'image de ce qui s'est fait avec la Turquie, ne devraient pas être de nature à rassurer le haut-commissaire.
Merci Marie-Pierre Véraud.
La campagne référendaire a repris en Grande-Bretagne.
Après une courte pause consécutive à l'assassinat de la députée pro-européenne Jo Cox, les échanges de points de vue pour ou contre le maintien du pays dans l'Union européenne ont repris donc hier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est dans une position compliquée que ces eurosceptiques refont campagne pour les derniers mètres avant le scrutin de jeudi. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Ludovic.
Correspondant permanent à Londres des eurosceptiques. Franck, un peu gêné aux entournures.
Oui, ces derniers jours, ces eurosceptiques ont été accusés d'avoir mené une campagne agressive qui a polarisé le pays en prenant pour cible les élites, les immigrés, créant ainsi un climat qui a pu favoriser le meurtre de Jo Cox. David Cameron lui-même l'a d'ailleurs un peu laissé entendre hier. Alors les eurosceptiques s'en défendent, ils estiment au contraire que les pro-UE sont responsables des tensions de la campagne en mettant essentiellement en avant les risques économiques d'un Brexit. Mais ces anti-UE se trouvent dans une situation délicate. Ils sont contraints de modérer leur discours, notamment sur le contrôle de l'immigration, un thème qui leur avait permis de passer en tête dans les sondages la semaine dernière. Il faut savoir par ailleurs qu'il y a deux camps chez les eurosceptiques. En gros, celui de Boris Johnson, avec de nombreux conservateurs et la plupart des travaillistes anti-UE, et celui du UKIP, le parti anti-UE de Nigel Farage, qui compte aussi des membres du Parti conservateur et quelques travaillistes. La principale différence entre ces deux camps porte sur l'immigration. Du côté du UKIP, on estime qu'il faut beaucoup insister sur cette thématique dans la campagne, sortir de l'UE pour pouvoir contrôler les frontières. C'est aussi la stratégie des tabloïds de droite, comme le Sun ou le Daily Mail. Boris Johnson et d'autres sont de plus en plus mal à l'aise avec ce sujet de l'immigration. Le meurtre de Joe Cox a ainsi mis au jour ces divisions et affaibli le camp du Brexit.
Merci Franck Madvon. On rappelle que trois sondages parus ce week-end outre-Manche donnent le camp du Remain, de rester dans l'Union en tête, mais l'incertitude reste évidemment totale à trois jours du scrutin.
La prise est historique pour le mouvement 5 étoiles en Italie.
C'est une femme, Caroline, pour la première fois qui s'installe dans le fauteuil de maire de la capitale, Rome. La candidate de cette formation populiste et anti-parti, Virginia Raggi, parle d'une nouvelle ère qui commence. Virginia Raggi n'est pas la seule à avoir gagné hier pour les Cinque Stelle. La défaite est douloureuse aussi pour le Parti démocrate du Premier ministre Matteo Renzi à Turin, où une autre jeune femme bat un vieux cacique de la gauche. La correspondance en Italie de Mathilde Lamberti.
Turin, c'est la surprise et la mauvaise surprise pour Matteo Renzi et le Parti démocrate. La ville a toujours été aux mains de la gauche et du centre-gauche. Elle passe donc au mouvement 5 étoiles, à une jeune femme, Chiara Appendino, 32 ans, qui a su rassembler les votes de la droite et de l'extrême droite. La Ligue du Nord de Matteo Salvini appelait à voter pour le mouvement 5 étoiles, aussi bien à Turin qu'à Rome d'ailleurs. La victoire de Chiara Appendino à Turin, de Virginia Raggi dans la capitale italienne, est la démonstration que la nouveauté paye en Italie, selon les commentaires dans la presse ce matin. Les nouveaux visages sont élus. Piero Fassino, maire sortant de Turin, selon les observateurs, n'a pas mal administré sa ville, mais il est étiqueté « ancien establishment ». Il a 66 ans, ancien ministre, un temps secrétaire général des démocrates de gauche. Matteo Renzi reconnaît la défaite ce matin. « Quand il y a ballotage entre nous et le mouvement 5 étoiles, c'est nous qui perdons », admet le secrétaire du Parti démocrate. Pour lui, c'est la preuve qu'il faut rénover le parti, en finir avec la vieille politique, ce sont ses mots, mettre en avant les jeunes candidats. Matteo Renzi, à ce stade, ne change rien à son gouvernement. « Je ne démissionne pas, c'est très clair », assure-t-il. Le match avec un grand M se jouera en octobre au référendum. Il a fait de ce prochain scrutin un vote pour ou contre lui. Si la réforme de la Constitution n'est pas adoptée par les Italiens, Matteo Renzi a promis de quitter ses fonctions.
Le Parti Socialiste aura finalement sa primaire.
Bah oui, ce sera, explique son premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, la primaire de la Belle Alliance Républicaine, la Belle Alliance Populaire, pardon, la BAP. Si vous avez loupé un épisode, la BAP, c'est l'alliance de socialistes, de radicaux et d'écologistes lancée à la mi-avril. C'est donc dans ce cadre que François Hollande, s'il est candidat, mais tout porte à croire que oui, affrontera la sanction citoyenne. De quel citoyen parle-t-on? Qui pourra voter? Quelles vont être les modalités de ce scrutin? Que sait-on? Élément de réponse avec vous, Frédéric Saïs.
Et la résolution adoptée ce samedi par le Conseil national du PS ne brille pas par sa précision. Ce que l'on sait, c'est que cette primaire aura lieu les deux derniers dimanches de janvier 2017. Le dépôt des candidatures, lui, se ferait entre le 1er et le 15 décembre prochain. Heureux hasard, c'est précisément la date à laquelle François Hollande a indiqué qu'il révélerait ses intentions. Alors, qui pourrait se présenter? Théoriquement, tous les membres de ladite Belle Alliance Populaire, c'est-à-dire les socialistes, les radicaux et les écologistes pro-gouvernement. Le vert François de Rugy a d'ailleurs annoncé sa candidature, tout comme Marie-Noëlle Lienemann de l'aile gauche du PS, Gérard Filoche, Benoît Hamon sont également intéressés. Arnaud Montebourg, qui militait de longue date pour des primaires, n'a lui pour l'instant pas réagi. Quant aux autres partis de la gauche, dans la résolution, le PS fait mine de regretter que le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts ne s'associent pas à l'initiative. Plusieurs ténors de ces deux partis parlent de pièges visant à relégitimer François Hollande. Quel corps électoral pour cette primaire? Là encore, peu de précision dans le texte. Le PS indique seulement que les modalités modalités de vote s'inspireraient de la primaire citoyenne de 2011, primaire ouverte donc, mais dans les faits, le Parti Socialiste, dont les effectifs ont chuté, paraît bien en peine de réunir les 80 000 assesseurs de 2011 et de tenir 10 000 bureaux de vote. Les modalités du scrutin, de débat et des candidatures seront tranchées le 2 octobre prochain au Conseil national du PS.
Voilà, une primaire de plus, Frédéric, dans chaque camp, dans chaque parti, on veut sa primaire.
Oui, primaire à droite, primaire PS, primaire de l'autre gauche, poussée par le Parti communiste, l'élection présidentielle semble désormais devoir se jouer en 4 tours. Il ne reste qu'au Front National et dans le parti de Jean-Luc Mélenchon que le suspense est assez faible. Au centre, l'UDI pour l'instant ne compte pas participer à la primaire de droite, même si quelques figures sont tentées d'y aller pour pouvoir ensuite peser sur la ligne et sur la répartition des postes. L'intérêt des primaires est évident. Elles permettent de créer un événement médiatique et d'accaparer les débats pendant quelques jours ou quelques semaines. Mais le risque, c'est que cette multiplication des primaires aboutisse à l'effet inverse de celui qui est recherché. Au lieu de s'oxygéner par de nouvelles idées, chaque famille politique se parle à elle-même. Au lieu de se rassembler, chaque famille politique met en concurrence ses ténors et ses seconds couteaux. Jusqu'à la caricature, à droite déjà, 12 candidats sont officiellement déclarés.
Frédéric Seyss, merci. Présentation et réaction de notre invité Emmanuel Morel, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé socialiste, ça y est, François Hollande se soumet au vote dans la presse ce matin. La tonalité est celle d'un scrutin taillé sur mesure pour le chef de l'État et d'une opération qui ne trompe personne, c'est votre avis ?
Non, moi je... D'abord, les primaires, le Parti Socialiste les a inaugurées en 2011, c'est inscrit dans nos statuts. Nous étions très nombreux à le demander. Au Parti Socialiste, hein. Il y en a d'autres, Michel Vivorca en fait partie, qui avait lancé un vibrant appel, mais moi
en
ça me
janvier,
paraît,
oui, on va en reparler dans un instant,
ça ouais. Me paraît absolument naturel que tous les socialistes qui veulent être candidats à la présidentielle s'y soumettent. Et d'ailleurs François Hollande lui-même, à l'occasion de la campagne de 2011, avait dit, même si je suis élu président, je passerai à nouveau pour une primaire si j'ai l'intention de me représenter. Donc de ce point de vue-là, tout me paraît normal.
Après, c'était en danger quand même, on voyait bien.
C'était en danger, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de socialistes proches du président qui lui déconseillaient de l'aller parce qu'il y avait une chance ou un risque, ça dépend de quel point de vue on se passe, qu'il le perde. Et c'est vrai qu'il y a un risque qu'il la perde, mais en même temps, ça n'aurait échappé à personne que la candidature de François Hollande n'a rien d'automatique et de naturel. Au bout de 4 ans, il faut le reconnaître, même au sein de la gauche, même au sein du Parti Socialiste, son bilan, il est contesté. Son action, elle pose un certain nombre de questions. Et c'est bien qu'à l'occasion d'une primaire démocratique, ouverte et citoyenne, eh bien, les choix qui ont été faits depuis 4 ans soient remis en question, soient questionnés. Mais il y a aussi une autre question, c'est qu'on nous dit François Hollande veut se représenter. Mais pourquoi faire ? Parce que ça paraît pas évident non plus.
Ah bon ?
Donc ça, bah non, moi je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux pas répondre à cette question. Pourquoi faire ? Donc je trouve ça bien qu'il y ait un débat. Je trouve ça bien qu'il y ait différentes options qui soient présentées aux gens. Et puis on tranche. C'est la meilleure façon de lancer la campagne présidentielle à gauche.
Emmanuel Morel, je salue l'autre invité présent dans ce studio pour la seconde partie de la Grande Table, Michel Vivorca, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, vous avez été parmi la quarantaine d'intellectuels et de personnalités culturelles, on en parlait à l'instant avec Emmanuel Morel, a exigé dans un texte commun l'organisation d'une primaire des formations politiques de gauche et écologistes. Le compte n'y est pas, on a envie de dire, parce que là on parle d'une primaire du Parti Socialiste, et de quelques radicaux, et de quelques écologistes.
Écoutez, si je vais résumer ma position, et celle de la dizaine de ceux qui ont été le noyau dur de cette aventure au départ, avec des nuances qu'il faudrait peut-être apporter, mais enfin, en gros, c'est encore quelques efforts. Encore quelques efforts, mais c'est un progrès. Il y a 3 jours ou 4 jours, il n'y avait pas de primaire.
Ouais.
Maintenant, il y a une primaire. Comme vous l'avez dit il y a un instant, ce qui a été annoncé reste flou, c'est-à-dire, non pas qu'il y a un loup, comme disait l'autre, mais ça veut dire que c'est ouvert.
Martine Aubry.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que ce soit vraiment ouvert ? Il faut essayer de voir si vraiment les communistes, si vraiment Europe Écologie Les Verts, si vraiment Mélenchon demeure extérieur à cette logique ou pas, premièrement. Et deuxièmement, il faut que le Parti Socialiste lui-même et ses satellites les plus proches, acceptent d'ouvrir pleinement des réflexions et des discussions, car nous, ce que nous avions demandé, c'est 2 choses. C'est la primaire, d'une part, et les débats citoyens pour la préparer. Nous ne nous contenterons pas, je pense, de ce qui se passera lors de l'université d'été du Parti Socialiste.
Si je peux me permettre,
Emmanuel Morel.
Le texte qui a été voté par les socialistes samedi ne fait pas le deuil d'une primaire ouverte à tous les partis de gauche. C'est écrit noir sur blanc. Nous continuons à inviter le Parti communiste, les Verts, et tous ceux qui souhaitent et qui se reconnaissent dans ce qu'on appelle la gauche de gouvernement, c'est la gauche qui veut gouverner. Je m'excuse, mais ça concerne tout le monde.
Même ceux qui en sont sortis chez les écologistes.
Bien sûr, ils sont invités à y participer. C'est ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, si primaire il y a, débat citoyen, il doit y avoir. Ça serait absurde d'avoir une primaire dont on rogne le temps, qui soit faite à la va-vite. La vraie question qui a été posée par Frédéric Sès tout à l'heure, c'est les conditions d'organisation. Un, est-ce qu'on aura une dizaine de milliers de bureaux de vote? C'est très important parce que les gens ne se déplacent pas si le bureau de vote il est à plus de 10 km de chez soi. Deux, combien il y aura d'assesseurs? Or, c'est vrai que le Parti Socialiste est affaibli. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de faire en sorte que cette primaire soit réussie. Trois, à l'évidence, ça doit être ouverte au plus grand nombre possible. Donc la seule condition
pour les débats de l'organisation de la primaire de 2011.
Mais c'est très bien. Et c'est ça. Non, il y a une troisième chose, c'est les conditions de parrainage. Ouais. Il ne peut pas y avoir tout le monde, mais il ne peut pas y avoir non plus qu'une seule personne. Et la dernière chose, enfin, il faut qu'il y ait liberté de candidature, y compris au Parti Socialiste. Ça va mieux en le disant, parce que moi je pense que manifestement au Parti Socialiste, il y a plusieurs options, elles doivent s'exprimer à l'occasion de ce débat.
Un mot de conclusion rapide, Michel Vieux-Vorka.
Il faut avoir aussi en tête comme horizon les législatives et pas seulement la présidentielle. Et je trouve que si le Parti Socialiste, d'une façon ou d'une autre, indiquait que les investitures lors de la préparation des législatives auront quelque chose à voir avec le résultat d'une primaire très ouverte, ça serait bien.
J'ajoute sur ce sujet des primaires, messieurs, que selon les informations du Monde, cette fois regardons à droite, eh bien Michel Alliot-Marie pourrait déclarer sa candidature à la présidentielle dans quelques jours, on parle du 4 juillet, sans nécessairement passer par la case primaire des Républicains du mois de novembre, c'est ce que dit son entourage. Elle n'y participera que si elle a la certitude que le processus se passera de manière équitable en l'état. Elle ne veut pas participer à une primaire qu'elle juge truqué. On passe à l'actualité française. La Suisse de l'actualité française, c'est le référendum.
Avec cette question, y aura-t-il référendum ou pas en Loire-Atlantique dimanche prochain?
Et c'est le Conseil d'État, Caroline, qui est réuni en ce moment même pour en débattre après le dépôt d'un recours. Plusieurs associations d'opposants à la construction d'un nouvel aéroport près de Nantes à Notre-Dame-des-Landes demandent la suspension de cette consultation locale ce dimanche. La semaine dernière, le Conseil d'État s'était déjà réuni. Il avait demandé des précisions au ministère de l'écologie. Ce matin, c'est le rapporteur public qui s'est exprimé. Décision attendue à 16h. Quelle a été, Véronique Rebérod, vous qui êtes en direct et qui suivez ça pour nous au Conseil d'État, quelle a été la teneur des propos du rapporteur?
Alors, le rapporteur public est revenu ce matin sur les trois motifs d'annulation mis en avant par les opposants au projet. Xavier Delesquen en a balayé deux assez rapidement. Oui, le périmètre de la consultation limitée au département de Nantes-Atlantique est valable. C'est celui de l'enquête publique du projet de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants estimaient que ce périmètre est trop restreint. Il n'inclut pas, par exemple, des départements voisins amené à financer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Balayez également l'argument du non-respect de la loi Macron de 2015. Celle-ci permet de prendre une ordonnance pour organiser une consultation locale, mais sur un projet d'État, des projets d'avenir. Or, le projet de Notre-Dame-des-Landes remonte à il y a plus de 50 ans. Il est bien engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le rapporteur public a estimé qu'il reste encore des décisions à prendre de la part de l'État. Tout n'est donc pas tranché et arrêté, semble dire Xavier Delesquen. Alors, il reconnaît en revanche que la question posée dans le cadre de cette consultation est très imprécise. Êtes-vous favorable au transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? C'est la question qui est soumise aux électeurs dimanche prochain. Le rapporteur public, soumet lui-même d'ailleurs une question, celle qui aurait été la bonne question à poser, dit-il. Êtes-vous favorable à la réalisation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes tel que prévu par la déclaration d'utilité publique de 2008? Ça signifie que le rapporteur public reconnaît que le mot « transfert » n'est pas adapté, alors effectivement que l'actuel aéroport va continuer de fonctionner en lien avec les activités industrielles d'Airbus. C'est donc pas un aéroport qui va être transféré, mais deux aéroports qui vont fonctionner à l'avenir. Et puis surtout, on ne sait pas à quel projet précis reconnaît le rapporteur public. Eh bien, on fait référence. Est-ce que c'est le projet de deux pistes à Notre-Dame-des-Landes ou une seule piste, comme les experts mandatés par Ségolène Royal le préconisent? Donc sur ce flou de la question posée, le Conseil d'État pourrait effectivement apporter une censure. On le saura à 16h. Cela pourrait conduire d'ailleurs à un report au mieux de la consultation.
Véronique Rebérot en direct du Conseil d'État. Merci. La perspective de nouvelles manifestations en France, malgré les mises en garde du Premier ministre Manuel Valls, jeudi à Paris, la CGT, avec d'autres syndicats, Force ouvrière notamment, appelle à manifester entre Bastille et Nation. L'appel a été formulé ce matin, très clairement une nouvelle fois. Ce midi, en réponse, la préfecture de police de Paris demande à ce que ces rassemblements soient statiques, plutôt qu'un défilé. Je me tourne vers l'invité de ce journal, Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste. Est-ce que ça vous parle, vous, une manifestation statique contre la loi travail ?
Bah, ça s'appelle un sitting, mais je ne comprends pas ce débat. Enfin, la liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas au syndicat, en l'occurrence la CGT, parce qu'on s'en prend à la CGT, ils sont plusieurs. Hein. On s'en prend d'ailleurs scandaleusement à la CGT. Je ne comprends pas que mes propres camarades puissent procéder ainsi. Liberté de manifester et le maintien de l'ordre public, ça n'est pas à la CGT de le réaliser, quoi. Bien sûr, ils ont un service d'ordre, ils essaient de faire ce qu'ils font. Les casseurs sont des parasites nuisibles qui viennent pour nuire à l'esprit de la manifestation. C'est au ministère de l'Intérieur et au service d'ordre des syndicats, quand ils peuvent, de s'occuper de ces questions. Mais encore une fois, moi, je pense qu'ils ont le droit de manifester. Je pense que non seulement ils en ont le droit, mais on est quand même un certain nombre à considérer que c'est sur la loi travail, il est temps de trouver une solution.
Certains de vos camarades socialistes, y compris à l'intérieur du gouvernement, même s'ils ne le disent pas très très fort, ont été choqués par ces mots de Manuel Valls quand on,
ah bah c'est hallucinant.
On franchit un cap, selon
vous,
l'interdiction de manifester.
Hallucinant qu'un homme de gauche sous la Ve République explique qu'il faut envisager d'interdire des manifestations sous prétexte que les manifestants ne sont pas d'accord avec lui. Parce que c'est de ça dont il s'agit. La CGT n'est pas responsable des calamités naturelles comme les inondations qui s'abattent sur la France, des problèmes liés à l'euro, des attentats. Eux, ils manifestent avec d'autres. Hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la CGT. Il y a Force ouvrière, il y a plein de syndicats, la majorité d'ailleurs, qui contestent une loi, sur laquelle le gouvernement fait preuve d'une intransigeance incompréhensible. Parce qu'il y a une voie de compromis possible. Et vous parlez du gouvernement, mais au sein du gouvernement, quand vous parlez en privé avec les ministres, il y en a plein qui se disent, mais évidemment qu'on peut arriver à un compromis. Mais on a François Hollande et Manuel Valls qui ne veulent pas. Pourquoi ? On est dans la déchéance de rationalité. Parce que après la déchéance de nationalité qui nous avait fait autant de mal, là c'est la déchéance de rationalité. C'est un comportement irrationnel. Arriver à un compromis, mettre tout le monde autour de la table, essayer de satisfaire les partenaires sociaux et le Parlement, ça me paraît totalement possible. Il y a plein de députés qui font des propositions concrètes pour y arriver. Mais on bute, c'est tout le problème de la Ve République, sur la tête de l'exécutif qui ne veut pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas, y compris, sauf Manuel Valls, parce que lui, il a une théorie, c'est les deux gauches irréconciliables. Les deux gauches qui ne peuvent plus se parler. Et il fait
donc
la
il
même
faut
chose
en tuer
avec,
une, quoi.
Il faut en tuer une. Et de la même façon, il fait la même chose pour les syndicats. S'il y a des syndicats fréquentables, dits réformistes, et les autres, avec qui il faut être dans la confrontation. Ben moi, je vais vous dire, ce n'est pas ma conception de la gauche, ce n'est pas ma conception du dialogue social. Et en plus, si on continue là-dedans, on va au-devant de graves déconvenues. Donc, incompréhension et soutien à ceux qui continuent à contester ce texte qui, en effet, pose un certain nombre de problèmes. Mais je le répète, le compromis, il est possible. Autant faut-il le vouloir.
Parmi le sujet que vous abordez, qui pourrait être abordé dans cette primaire socialiste dont on parlait en début de journal, la refonte des institutions. Vous évoquiez, pour vous, une certaine usure de nos institutions. Mathias Fekl, ce matin, le secrétaire d'État au commerce extérieur dans Libération, appelle à une refonte des institutions, mais pas par une assemblée constituante. Il dit c'est pas le bon outil. Est-ce que vous avez une suggestion à faire dans cette année électorale.
Ce qui compte, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la Ve République. Elle est à bout de souffle. On voit bien ce que ça donne. Le pouvoir personnel, l'abaissement du Parlement.
Mais comment, par quel moyen on change nos institutions? Quel groupe s'occupe de cette réflexion-là?
Il y a trois solutions possibles. Un, la constituante. On élit une assemblée dont c'est le boulot. Ça peut s'envisager. Deux, un référendum. C'est-à-dire que, de la même façon que la Ve République, il y a eu un comité qui a rédigé une nouvelle constitution qui l'a soumise au peuple. C'est une solution possible. Et demander son avis au peuple, ça me paraît absolument nécessaire. La troisième chose, c'est la réforme progressive. C'est-à-dire que le prochain président s'engage à opérer un certain nombre de modifications constitutionnelles. La première, c'est par exemple supprimer le droit de dissolution du président, parce qu'il y a quand même un déséquilibre qui est hallucinant entre un président qui peut dissoudre une assemblée, mais une assemblée qui ne peut pas démettre le président. Donc le mieux, c'est de faire la rupture de ce lien, donner plus de pouvoir au Premier ministre, comme toutes les démocraties européennes modernes, et puis surtout que le Parlement ait plus de pouvoir, et qu'il soit plus représentatif. Donc plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête avec les mécanismes de parlementarisme rationalisé qui empêchent le Parlement de faire son job, et puis surtout, il faut qu'on ait un mode de scrutin différent pour que les familles politiques soient représentées au sein de l'Assemblée nationale.
Avec de la proportionnelle.
C'est possible, c'est raisonnable, c'est réformiste, puisque le mot est à la mode, et d'une certaine façon, tout le monde y aspire. Donc faisons-le. Le problème, c'est que François Hollande s'y était engagé quand il a été élu président de la République et qu'il ne l'a pas fait.
C'est ça. Croirons-nous le prochain?
Merci beaucoup. C'est toute la question. C'est toute la question.
Emmanuel Morel.
Et c'est pour ça qu'il faut de toute façon en passer par un référendum et demander son avis au peuple.
Merci Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste invité de ce journal. Un petit mot du temps très rapide, très gris, un peu de pluie dans le nord-ouest. À l'avant de cette perturbation, quelques ondées possibles de l'Aquitaine à la Lorraine et puis du beau temps sur les bords de la Méditerranée. 17 à 21 degrés dans la moitié nord, 25 degrés en moyenne dans le sud. Cette édition a été préparée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h, t'arraches les gueules.